Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pierrot et la Magie.
Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre journal. Hausse du prix du carburant dans la ville de Kananga depuis quelques jours. À la pompe, un litre d'essence passe de 2800 francs à 2950 francs congolais et de 2700 francs à 3200 francs congolais chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Une situation que les pétroliers attribuent à l'arrêté de ces produits sur les marchés. Reddition des faux maïmaï dans le territoire de Lubero au Nord Kivu pour les cercles des jeunes pour la promotion socio-économique. Parmi les 30 personnes reçues par la CIAP des DRC du Nord Kivu, 15 sont des anciens maïmaï autoproclamés, désarmés et démobilisés qui vivaient dans la cité depuis plus de 15 ans. Cette structure plaide ainsi pour l'ouverture des enquêtes approfondies à ce sujet afin de tirer les choses au clair. Difficulté de desserte en eau potable de la régie des oies Kinshasa depuis quelques jours. Nous en parlons avant la fin de ce journal avec Émile Losambé, directeur de communication à la régie des eaux et qui annonce par la même occasion la construction d'autres centres de captage d'eau afin de pallier définitivement à cette situation. Merci de suivre ce journal sur la fréquence de la paix. La ville de Kananga connaît depuis quelques jours une légère hausse des prix du carburant. À la pompe, un litre d'essence est passé de 2800 francs congolais à 2950 francs congolais. Auprès de revendeurs communément appelés Kadhafi, il se négocie à 3200 francs congolais au lieu de 2700. Une situation que les pétroliers attribuent à la rareté de ces produits sur les marchés. Explication Blaise Ndongala Mayanda.
Le président de l'association des pétroliers du Kasai Central évoque plusieurs raisons pour justifier la rareté des carburants sur les marchés de Kananga. Il cite entre autres la fermeture de la frontière angolaise à la suite de la pandémie de la COVID-19 et les rotations irrégulières des trains de la SNCC en provenance de Lubumbashi, Désiré Chikenda.
Avec la COVID-19 côté de l'Angola, on n'accepte pas d'entrer, c'est un peu difficile pour avoir le carburant. Côté de Lubumbashi, ces derniers temps, il n'y a pas encore de wagons, il n'y a pas d'acheminement de marchandises. Côté de Kinshasa, voyez, il n'y a pas de route qui peut amener les marchandises rapidement. Souvent, le problème des bateaux aussi, tout ça, ça provoque la réalité des marchandises pour acheminer ici. Nous souffrons toujours puisque notre problème sont enclavés.
Un litre de mazout se vend actuellement à 3000 francs congolais alors qu'il s'est négocié il y a quelques jours à 2600 francs. La hausse des prix des carburants ne restait pas cependant sans conséquences à travers la ville. La plupart des conducteurs des taxis-motos menacent déjà de revoir à la hausse les prix de certaines courses. La population, elle, craint que les prix des transports en commun augmentent au risque d'entraîner la cherté de plusieurs biens et services à travers la ville. De Kananga, Blaise, Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Au Kasaï Oriental, validation ce mercredi par les fonds de promotion industrielle FPI et la régie des voies fluviales RVF en sigle du rapport sur l'entretien de la rivière Lubi dans le territoire des Kabeyakamwanga. Cette rencontre qui a été présidée par les conseillers techniques du gouverneur des provinces s'est tenue après la mission d'évaluation des travaux à effectuer pour appuyer le programme des navigabilités sur les biefs d'Ndomba. Les deux parties, la RVF et le FPI, annoncent pour bientôt le début des travaux sur la rivière Lubi. Explication Esther Ndalafina.
Après les études menées pour que la rivière Lubi soit navigable sur les tronçons entre Ndomba et la confluence des rivières Sankuru et Lubi, le directeur technique de la régie des voies fluviales RVF et en même temps coordonnateur du projet Lubi affirme qu'ils ont identifié quelques sites sur lesquels ils vont se focaliser dans un premier temps. Gabriel Mokambo.
Nous avons décelé de sites où il y a des branches d'arbres qui sont tombées dans l'eau, que nous appelons snag. Il faudra enlever parce que ça constitue un danger pour la navigation. Il y a des arbres aussi qui surplombent si on ne fait pas attention pour eux toujours tomber après nous. Installer les échelles de tirage qui permettent à ce que nous fassions le suivi du régime hydrologique.
Le directeur adjoint du FPI s'est dit satisfait du rapport des études faites par la RVF. François Mpila.
Le dragage. Mais quand nous sommes arrivés, ils nous ont dit non. Mais les activités d'aménagement et de maintien de la rivière concernent aussi les balisages, les desnagages, les rotages et les dragages, j'en passe.
D'après le FPI, ces travaux rentrent dans le cadre du programme d'urgence développé pour l'approvisionnement des produits industriels venant du Congo central et de Kinshasa, qui avaient des difficultés à arriver au Kasaï oriental en période de basse eau. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La division provinciale des mines du Sud Kivu est désormais dotée de femmes officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Les inspectrices des mines ont prêté serment hier mercredi au parquet général de Bukavu. C'est là, à l'issue d'une formation de 2 semaines, assurée par l'Organisation internationale des migrations, OIM, et le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Emmanuel Elmejoua Kabedi nous fait le point.
Elles sont au total 20 inspectrices des mines devenues officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Pour le chef de division provinciale des mines, Monsieur Simon Luboula, l'avènement de ces femmes OPJ était très attendu pour la recherche des infractions de son secteur, étant donné que le Sud Kivu est une province hautement minière.
Il y a un besoin puisque la division provinciale des mines travaille sur toute la chaîne de traçabilité du puits jusqu'à l'exportation. C'est pour cela que nous avons eu besoin de ces inspecteurs pour réprimer les infractions, et aussi il y avait ce manque de qualification de sites miniers pour augmenter ainsi la production.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bukavu, qui a pris acte de leur prestation de serment, s'est adressé à elles pour leur rappeler le travail qui les attend sur terrain. Le procureur Katele Kapeleka.
Madame, les OPJ, dans votre secteur des mines, il y a ceux qui viennent avec des minerais ici dans la ville, qui n'ont pas de titre d'exploitation minière, mais vous les laissez puisqu'il appartient à tel groupe, à tel autre groupe. Vous serez aussi poursuivi pour abstention coupable.
Signalons que ces inspectrices des mines ont suivi une formation de 2 semaines assurée par l'Organisation internationale des migrations, OIM, en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Dans le territoire de Lubero, l'ASBEL, Cercle des Jeunes pour la Promotion Socio-Économique, dénonce ce qu'il qualifie de reddition des faux Maïmaï Léopard le 9 février dernier à Lubero Centre. Il s'agit de près de 30 personnes reçues par la Commission interprovinciale d'appui au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire SIAP de DRC Nord Kivu. Ces personnes avaient remis 2 armes à feu et 2 armes blanches en présence des autorités civiles ou militaires. Le Cercle rapporte que seules 15 personnes parmi la trentaine sont des anciens Maïmaï autodésarmés et démobilisés qui vivaient dans la cité depuis plus de 5 ans. Ils plaident ainsi pour l'ouverture des enquêtes approfondies à ces sujets afin de tirer les choses au clair. Florida Kambou nous en parle.
C'est dans un rapport du 15 février dernier que cet ASBEL indique avoir mené des enquêtes auprès de ces miliciens après la cérémonie de leur reddition. Elle rapporte que parmi les personnes présentées comme Maïmaï à la reddition, on trouve des civils. Ces derniers ont été recrutés dans la cité avec promesse d'obtenir du travail dans le cadre du projet du Fonds social ou dans la SIAP des DRC en qualité de sensibilisateurs. Note les rapports. Pour cet ASBEL, le groupe Maïmaï Léopard est un faux groupe armé qui a cessé d'exister depuis des années. Kambale Mukosabei Djelo, son coordonnateur, revient ici sur les recommandations formulées dans ces rapports.
Tout d'abord, au gouvernement provincial de diligenter des enquêtes pour tirer au clair cette reddition. Et à la MONUSCO, qui est un partenaire de taille du gouvernement, surtout à ce qui concerne la démobilisation, de se pencher sur cette question, probable source d'insécurité.
Contacté à ce sujet, Katembo Luko Ojak, coordonnateur de la SIAP DDRC, parle d'un faux débat. D'après lui, l'identité des Maïmaï ne peut pas faire objet de polémiques, car, dit-il, ce sont des miliciens qui vivent au sein de la population. Rappelons que la MONUSCO n'avait pas pris part à ces processus de reddition, car n'étant pas associée à NAMO, afin de prendre les dispositions nécessaires habituelles à ces sujets. Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Dans la province du Maïndombe, l'auditorat militaire de la commune rurale de Nyoki a réussi à démanteler ce mercredi une bande de 7 voleurs armés dans cette cité. Plusieurs biens de valeur volés par ces malfrats et stockés dans une maison ont été saisis par l'auditorat militaire, où sont aussi garder ces voleurs en attendant leur transfert au parquet. Fidel Luzorongo, coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits humains, qui livre cette information, souhaite que ces inciviques soient transférés en prison en dehors de la province du Maïndombe. Le point avec Irène Boma.
Parmi les biens volés et découverts dans cette maison, les coordonnateurs de l'ONG ADH parlent de plus de 25 panneaux solaires, d'une trentaine de télévisions dites plasma de toutes marques, des radios, des baffles, des batteries, des chaises, des ustensiles de luxe et bien d'autres. Ces biens de valeur sont gardés par la maman de l'un de ces voleurs armés, indique Fidel Lizorongo, qui affirme que ces derniers ont commencé à opérer depuis longtemps dans la cité de Nyoki, mais ont toujours échappé aux services de sécurité. C'est grâce à la collaboration des jeunes gens du quartier Kingabwa voit que cette bande de voleurs a été démantelée mercredi en plein jour par des éléments de l'auditorat militaire de Nyoki. Pour Fidèle Lizorongo, ces malfrats doivent être emprisonnés en dehors de la province du Maïndombe.
Nous, on était en train de se plaindre ici, croyant que ces voleurs viennent de Maluku, de Kinshasa ou partout ailleurs. Or, ce sont des garçons d'ici. Notre grande recommandation est quoi? Les grands voleurs comme ça qui vivent dans un milieu où ils ne sont pas dépistés facilement, où ils ont stocké tous les biens volés comme c'est une magasin, comme c'était des commerçants. Nous demandons aux autorités compétentes s'il faut les transférer, qu'ils puissent aller faire la prison en dehors de la province de Maïndombe.
Notez qu'un appel a été lancé auprès de tous ceux qui ont été victimes de vol afin de se présenter à l'auditorat militaire de Nyoki pour retirer leurs biens retrouvés. Bandundouville, Irène Mboma, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, la plupart des administrateurs de territoire travaillent sans salaire, ni frais de fonctionnement et autres avantages. Ils l'ont fait savoir à travers une lettre de soutien à l'Union sacrée créée par le chef de l'État. Ils disent rester confiants dans la nouvelle vision du président de la République pour résoudre la question de leurs conditions de travail. Emmanuel Elmejouakabidi, vous avez lu cette correspondance des administrateurs de territoire.
La lettre de soutien à l'Union sacrée de la nation est signée par les administrateurs des 8 territoires du Sud Kivu. Kabare, Kalehe, Fizi, Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda et Idjui. Ils disent leur attachement à la nouvelle vision et détermination du chef de l'État pour une gouvernance nouvelle. Pendant ces temps, les administrateurs des territoires relèvent les conditions de travail précaires dans lesquelles ils évoluent depuis 2 années. Certains travaillent depuis 3 à 9 ans sans salaire ni prime, pas de frais de fonctionnement ni de logement. Les administrateurs du territoire affirment œuvrer comme bénévoles et passionnés de l'administration. Pour terminer, les 8 administrateurs du territoire disent se ranger derrière le gouverneur de province en attendant les nouvelles instructions directrices pour ce qui les concerne. Nous vous rassurons de notre accompagnement pour la concrétisation du vaste chantier du développement pour l'intérêt du peuple congolais, concluent les 8 administrateurs du territoire du Sud Kivu. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu, Radio Okapi.
À Lukolela, les enseignants du territoire réclament leur salaire du mois d'octobre 2020. Ils conditionnent également la reprise des services le 22 février prochain par ces paiements. Ils dénoncent aussi l'indifférence des autorités compétentes, car, disent-ils, depuis l'année passée, ils ont mené des actions sans aucune réaction des autorités administratives, mais aussi de la Caritas qui est chargée de leur paye. Explication de Trésor Epanga, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo Sieko, jeune au téléphone par Paul Richard Malenguela.
Nous venons juste pour réclamer le salaire du mois d'octobre où jusqu'à présent nous ne sommes pas servis sous prétexte que l'argent était incendié. Mais messieurs les journalistes, écoutez, nous avons fait des démarches, nous avons écrit, on a tout fait, mais ça, aucune réaction de la part des autorités parce que notre problème est qu'on nous donne des solutions par rapport à cette situation. Nous avons écrit, nous avons manifesté des semaines des spéciales Lukolela, encore un mois de grève, aucune réaction de la part de la Caritas ni l'État. C'est pourquoi nous avons une condition, les enseignants donnés, parce que nous avons pris une lettre administrative, qu'on n'aura pas lié le 22 février ici, parce que les enseignants confectionnent la reprise des cours par rapport au paiement du mois d'octobre. Il n'y aura pas ça, nous allons manifester, on fait que les autorités nous écoutent.
Rappelons que le 5 novembre dernier, la Caritas Développement de Mbanda Kabikoro avait annoncé l'incendie de 300 millions de francs congolais à bord d'une pirogue motorisée. Les fonds étaient destinés à la paye d'octobre de tous les enseignants des territoires de Lukolela et de Yumbi. Dans la province du Nord Kivu, un conflit foncier opposant quelques particuliers à plus de 150 ménages tourne depuis 3 jours à des violentes confrontations entre la police et les habitants menacés de déguerpissement. C'est au quartier Kéchéro, dans l'ouest de la ville. Hier mercredi, quelques personnes, dont une journaliste, ont été blessées par balles. Selon les sources sur place, depuis le week-end dernier, toutes ces familles sont délogées des forces de leur maison et restent sans abri. Mathieu Ilunga Chamboui nous fait le point.
Plusieurs ménages déguerpis de leur maison dans l'ancienne concession Nyarusase se sont confrontés avec les éléments de la PNC envoyés sur place pour l'exécution d'un jugement rendu par une instance judiciaire à titre. Cette altercation s'est soldée par quelques personnes blessées, dont une journaliste qui a reçu une balle perdue à l'épaule gauche. 5 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles un ancien chef d'avenue et 2 femmes, mais dont la destination des mers inconnues selon leurs proches. Ces conflits de terres, dans cette ancienne concession sur l'avenue de la polyclinique au quartier Keshero, opposent ces familles à quelques particuliers depuis quelques années. Mais, selon des témoignages concordants, ces habitants auraient occupé la concession d'un ancien chef coutumier décédé, mais avec l'aval des membres de la famille royale de ces derniers. Quelques années plus tard, une autre personne est venue revendiquer le droit à cette concession. Le mouvement pro-démocratie Congo Conscience, actif à Goma, exige une justice équitable en faveur de ces ménages. Il faut noter qu'après les altercations, les éléments de la peine s'est commis pour l'exécution du jugement se sont vus ce matin remplacés par les militaires FRDC sur cette concession. Goma, Mathieu Ilunga Chamboyo Monachebe, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, près de 200 000 doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm sont arrivées à Dakar. Une première étape de la stratégie vaccinale annoncée par les autorités dont l'objectif est de lancer la campagne de vaccination à la fin du mois. Les cibles prioritaires, les personnels de santé et les personnes de plus de 60 ans souffrant des comorbidités, ce qui représente 3,5 millions de personnes. Le président Macky Sall est allé en personne réceptionner la cargaison transportée depuis Pékin par un avion spécial de la compagnie nationale Air Sénégal. Un jour historique selon le chef de l'État. Et en Libye, la population de Tripoli fête la révolution et fustige le maréchal Haftar. Les célébrations ont duré une bonne partie de la journée et de la nuit. À Tripoli, la population et les anciens rebelles fêtaient les 10 ans du début de l'insurrection qui a mis fin au règne de Muammar Kadhafi en octobre 2011. Alors que le maréchal Haftar a fait des anciens cadres de l'armée de Kadhafi ses alliés pour prendre le pouvoir. Les artisans de la révolution libyenne à Tripoli ont redoublé de ferveur hier pour s'en prendre à leur ennemi de l'Est.
L'invité.
Nous recevons Émile Lossambé, directeur des communications à la régie de distribution d'eau, régie des eaux. Il s'exprime sur la situation de la desserte en eau potable à Kinshasa et annonce, par le même temps, que les équipes de la régie des eaux sont à pied d'œuvre pour la construction d'autres centres de captage d'eau afin de pallier définitivement cette situation. Émile Lossambé s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur Emile, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. Lungembo.
Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la régie des eaux?
La situation qui se passe au niveau de la desserte, spécialement dans la ville de Kinshasa, peut être résumée comme suite. Comme nous le savons, avec la densité qui a explosé la population à Kinshasa, on est à plus de 12 millions à Kinshasa. Il nous faut 1 million de mètres cubes en latte aujourd'hui par jour pour desservir tout le monde 24 heures sur 24. On a passé tôt là. C'est le cas que nous avons pour les machines qui sont installées au captage de l'usine d'Njili qui est sur le pont Njili. Il y a au moins 4 machines qui nous posent problème là-bas. Elles sont devenues toutes obsolètes et tombent en panne régulièrement. Et même si on le repart, elles n'ont plus la même capacité d'aspiration ou la même capacité de débit qu'elles avaient au départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'usine d'Njili, qui dessert les réseaux de Kinshasa à plus de 60%, 16 communes sur 24, lorsque cette usine-là a des perturbations sur le plan de fonctionnement, et surtout quand les machines tombent en panne au captage, automatiquement la desserte, la ville de Kinshasa est paralysée. C'est ce que nous vivons actuellement. Et cette situation s'aggrave encore avec la nouvelle usine de Lukaya qu'on a conçue il y a 5 ans maintenant. Cette usine-là fonctionnait normalement. Mais depuis un certain temps, nous-mêmes, la population, avec la complicité des services de l'État, on a octroyé l'exploitation des carrières en amont de l'usine, qui drainent des bandes de sable. D'abord, ça réduit le débit de captage d'eau brute. Et ces bandes de sable envahissent maintenant les poches d'aspiration, là où se trouvent nos pompes. Et ces pompes tombent en panne régulièrement.
Est-ce que instantanément la solution peut être trouvée?
Tout à fait. Je vous dis que nos services sont en train de travailler. Il y a des techniciens qui ont passé plus de 72
heures. Mais ça fait plus de 3 mois maintenant.
Non, pas plus de 3 mois. La situation est intermittente, JR. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Quand vous réparez une pompe, elle peut tomber en panne aussitôt après, ou elle peut fonctionner pendant une semaine et puis tomber encore en panne. C'est ça la situation que nous connaissons. Donc quand vous voyez une perturbation dans le réseau, sachez que pompe Mokuna est couée en panne. Tomi Balé, Tomi Sat. Quand vous voyez l'eau arriver chez vous, c'est que Njili a repris son fonctionnement optimal. C'est ça la situation qu'il y a à Kinshasa maintenant. C'est ça la situation.
D'autres quartiers vivent cette situation de manière endémique.
Effectivement, nous sommes au courant de ça. C'est une situation que nous connaissons, nous maîtrisons. Il y a des quartiers par le fait que, vous savez, les conduites, par exemple, en acier qui étaient et implanté à l'époque. Ce sont des conduits qui sont attaqués par les produits chimiques qui sont dans l'eau. Les sulfates, c'est un acide. L'hypochlorite attaque l'acier. Et au fur des années, il y a l'entartage qui se crée, la corrosion crée l'entartage. Et ça réduit la section des conduites. C'est qu'à un certain moment donné, même si l'eau arrive, l'eau ne sait plus par où passer. Il faut réhabiliter tous ces quartiers-là. À l'époque, nous l'avons fait dans la ville de Kinshasa, avec l'Union européenne, que nous félicitons, nous remercions au passage, qui nous avait aidés, mais on n'a pas pu réhabiliter tous les quartiers, notamment Baroumbi.
Êtes-vous conscient que la situation elle est catastrophique?
Nous sommes conscients et nous-mêmes nous le disons. Je ne dirais pas catastrophique. La situation est difficile par le fait que la population a besoin de l'eau. Nous sommes conscients. Nous devons donner de l'eau potable à notre population. C'est notre mission. La magie là-dessus, c'est ça. Et aujourd'hui, on a plus de 12 millions d'âmes à Kinshasa. La même capacité. Pourquoi? Parce que la coopération était arrêtée depuis 1990. On a connu des guerres ici. Plus d'investissements. Mmh. C'est actuellement avec la politique agressive du chef de l'État que maintenant les investisseurs commencent à revenir avec les bailleurs de fonds et tout et tout. Donc c'est pour dire que ce que nous faisons maintenant, c'est le peu d'eau pour tout le monde. Sécuriser les 550 000 mètres cubes, c'est la grande bataille maintenant. Un, il faut des pièces de rechange, il faut de l'argent pour réparer et tout et tout. Maintenant là, on est en train de travailler. Quand on remet ces pompes en service, vous allez voir que l'eau va commencer à couler. Mais pour combien de temps? Mais pour le sécuriser radicalement, il faut remplacer les nouvelles pompes. C'est la grande bataille qui est en train de se faire. Bientôt là, ça sera fait. Mais au-delà de ça, il y a deux grandes usines qui sont en train d'être construites. L'Embaïmbo et Ozone. Ozone va donner 110 000 mètres cubes dans son premier module parce qu'il va donner au finish 330 000 mètres cubes comme Djili.
Et l'Embaïmbo. Mais c'est le même refrain que la Régie des Eaux.
Ce n'est pas le refrain.
Non. Lors du captage de la Lucaya.
Je vous dis que ce n'est pas le même refrain. Ce que nous disons ici, c'est la vérité. Il faut le répéter pour que la population comprenne. Mm-hmm. Au 31 décembre ici, le chef de l'État va inaugurer les modules des deux usines qui vont apporter 145 000 mètres cubes à Kinshasa. C'est une donnée réelle, ce n'est pas fantaisiste. On ne vient pas raconter des choses ici. Mais il faut que la population le sache. Bakanga Motema, d'ici 31 décembre, on ne parlera plus d'une perturbation plus forte à Kinshasa. Vous allez voir la stabilisation de la DCR dans la ville de Kinshasa. Ça, je vous l'ai dit.
Monsieur Mil, Losambe, merci de nous avoir, bien voulu nous accorder cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Élisée Tchikot à la coordonnée sous la supervision d'Alain Irung et Willem Lungamba était à la mise en ordre. Ce journal, comme l'ensemble de nos informations, vous pouvez les retrouver sur www.radiocapi.net.